C'est pas sorcière. 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 C'est pas sorcière.
Coucou. Moi c'est Marion.
Et moi c'est Louise.
Bienvenue dans C'est pas sorcière.
Le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie.
Et les pratiques ésotériques.
Et bienvenue dans ce nouvel épisode.
Bonne année.
Ah oui, c'est l'épisode de janvier. Bonne année si vous nous écoutez à la sortie de cet épisode.
Et surtout
un an après la sortie de cet épisode.
Ah oui. Bah oui. Oh waouh. Le temps passe si vite.
Et est-ce que tu as passé une... Qu'est-ce que... On n'a pas envie de parler de résolution, c'est nul.
Ah oh, non.
Je cherche des questions à faire en lien avec la bonne année, mais... Une année de plus, voilà, c'est bon.
Voilà, ça, on a changé de numéro. Tada!
Et du coup, tu vas nous parler de quoi pour cette première chronique de l'année?
Eh bien, justement, de numéros. Je vais parler de numérologie.
Oh,
vous avez bien entendu, moi, Marion, qui est
traumatisée par
mathématiques, j'ai décidé de parler de numérologie.
Eh bien, ouais. Ça va être bien.
Je suis pas sûre, mais oui, allons-y. Et toi, tu vas parler de quoi?
Moi, je vais te parler de sorcellerie en Islande.
Ah oui, trop bien, j'avais besoin de ça.
Donc, mets ton bonnet. Si les gens ont écouté notre épisode précédent, que je suis sûre que tu as fait.
Non.
J'avais invité donc Alix et Marjolaine pour parler de la figure de la sorcière dans Harry Potter.
Ouais.
Et Alix vit actuellement en Islande.
Oh, trop bien.
Et comme c'est une belle personne, elle m'envoie régulièrement des ressources sur la sorcellerie en Islande. Et donc, pour cet épisode de janvier, je me suis dit que ça serait chouette de partir dans le Nord. Et donc, j'ai regardé un peu ce qu'elle m'avait envoyé. Et c'était extrêmement intéressant. Donc voilà.
Trop bien.
Je m'excuse aussi par avance pour la prononciation des noms propres. C'est marrant, j'ai pas réussi à prononcer prononciation.
Je pense qu'il y a des langues pour lesquelles ça sert à rien de s'excuser. Ils savent très bien ce qu'ils font. Les gars, ils ont pas changé de grammaire depuis 500 000 ans.
Tu les insultes alors que c'est moi qui vais insulter leur langue en prononçant n'importe comment.
Ouais, je les taquine. Je me dis peut-être qu'ils sont comme ça les Islandais, peut-être qu'ils aiment la rigolade.
Et d'après le film Fire Saga Eurovision Story que j'ai regardé au moins 5 fois,
oui,
ils sont vachement bien les Islandais. Regardez ce film, c'est tellement drôle.
Ça me donne envie de le revoir. C'est quand le prochain Eurovision? À quelle période de l'année, ça?
En mai.
En mai, pour mon anniversaire, ouais. Parfait.
11 mai, la finale.
Trop bien.
Du coup, sorcellerie en Islande. Alors, comme en Europe, l'Islande, elle a connu une période de chasse aux sorcières au XVIIe siècle. Mais c'est pas la même chose qu'en Europe, parce que sinon, ça n'aurait pas trop d'intérêt que je vous raconte ça. Donc, du coup, je vais un peu vous montrer les différences avec ce qu'on connaît et les ressemblances, parce qu'il y a quand même des choses qui sont similaires. C'est parti.
J'ai une question.
Alors, oui.
L'Islande, c'était pas un territoire colonisé par je sais plus quel pays du nord de l'Europe?
Oui, le royaume du Danemark-Norvège.
Ok.
Ça va venir après parce que justement, ça a eu une influence.
D'accord.
Sur leur chasse aux sorcières. Alors, une des premières différences avec l'Europe, c'est que l'apport de la sorcière, c'est pas quelque chose qui s'est construite dans leurs croyances et leurs religions, puisque y a de la magie dans les mythes nordiques, autant de la magie blanche qui est une magie plutôt positive que de la magie noire qui est mauvaise. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez présent depuis plusieurs années. Donc, ce n'était pas forcément quelque chose qui amenait à des accusations sur ses voisins. C'était plutôt des choses que les gens connaissaient déjà, c'est contrairement aux chasses sorcières en Europe, où c'est apparu à partir du Moyen-Âge et de la figure du diable.
Okay.
Alors, il y a deux termes importants. Eux, ils ont ce qu'ils appellent Galdur, qui est la magie en elle-même. Et ils ont aussi Fjolkingi, qui, ça réfère plutôt à la sorcellerie. Et en fait, tout ce qui est le savoir, la maîtrise de la magie.
Ah, c'est
marrant. Du coup, tu peux avoir juste du Galdur, juste la magie en elle-même, parce que c'est ce qui est... Il n'y a pas besoin de maîtrise pour qu'il y ait la magie toute seule. Et par contre, le fait de la maîtriser, c'est là qu'on va avoir du coup des sorciers, des sorcières. Parce que c'est vraiment... Et rien que de lire ça, moi j'étais là, oh, mais trop bien, ça me donne l'idée de plein d'histoires de fantasy. Leur pratique à eux de la magie, ça existait déjà. Il y a des gens qui ont essayé d'utiliser de la magie. On a retrouvé des traces principalement dans des grimoires. Et c'est plutôt une magie assez simple dans ses objectifs, parce que c'est pour, par exemple, gagner un peu plus d'argent et éviter la maladie. Donc c'est plutôt magie cool. Moi, de mon côté, j'adhère.
Ouais, moi aussi. Surtout éviter la maladie, franchement, tout est faisable.
C'est ça. Et si jamais vous passez en Islande par hasard, vous pouvez en découvrir un peu plus sur tout ce qui est l'histoire de la magie de la sorcellerie en Islande dans un musée qui est à Holmavik. Voilà. Donc ils ont de la taille de l'Islande, ils ont quand même un musée que sur ça. Et je trouve ça très cool. Mais du coup, vous vous demandez sûrement... Enfin, Louise, si la sorcellerie ne pose pas de problème, comment se fait-il qu'il y a eu des chasses aux sorcières ?
Oui, c'est vrai, on se le demande, Louise.
Eh bien, comme tu disais tout à l'heure, la réponse allait chercher du côté des personnes qui sont venues en Islande.
Aha !
Du coup, ça va être les Danois qu'on va pointer du doigt, puisque à cette époque, l'Islande était sous l'autorité danoise. C'était un pays catholique et les Danois vont essayer de réformer le pays pour en faire devenir un pays protestant. Donc, vous pouvez vous douter que ça se passe jamais très bien quand on essaye d'imposer une nouvelle religion aux gens alors qu'ils en avaient déjà une.
C'est un peu chiant les protestants quand même, je voudrais pas semer le trouble, mais franchement ça fait plusieurs fois là dans l'histoire et genre vous comprenez pas qu'il faut laisser les gens...
Ouais, dans l'autre sens aussi, t'inquiète pas, les catholiques ont aussi essayé d'artiriser les protestants. D'ailleurs, en Europe, c'est plutôt les révoltes contre les protestants qui ont mené ensuite aux chasses aux sorcières.
Ah ouais ?
Enfin, pas les révoltes, les massacres contre les protestants. C'est un sujet que j'ai dans ma liste de faire pourquoi les origines des chasses aux sorcières et tous les massacres qui ont mené au massacre des sorcières.
La Saint-Barthélemy, la Saint-Barthélemy. Ouais. Ah, Catherine de Médicis, qui d'ailleurs adorait tout ce qui était astrologie et devineresse, médium, tout ça.
Ah, zut, c'est pas un bon...
ah non, c'est un pas bon un bon
porte-parole, du coup.
Je me désolidarise de son mouvement.
L'autorité danoise, elle va aussi pas importer qu'une religion, elle va aussi apporter toute une juridiction. Et en 1564, ils vont publier un décret qui ordonne de reporter toute forme d'hérésie aux autorités. Donc, entre autres, l'hérésie catholique, mais aussi tout ce qui est sorcellerie. C'est similaire à ce qui s'est passé au Finnmark, dans le nord de la Norvège, dont je vous ai parlé dans l'épisode 10. Donc, si vous voulez aller réécouter cet épisode... C'est une chasse aux sorcières qui est importée par une autre culture qui va imposer sa vision du monde. Alors, il y a ce décret qui est publié. C'est pas pour ça que les Islandais vont se mettre du jour au lendemain à accuser leurs voisins. C'est plutôt des bons gars, puisque après la publication du décret, il a fallu environ 15 ans pour qu'il y ait un tout premier procès pour accusation pour sorcellerie. Et c'était pas très violent. On a plutôt excusé l'accusé parce qu'il essayait d'aider une vache malade. Il se trouve que la vache est morte. Bon, au moins, il a essayé de l'aider, quoi.
Bah, ça, c'est gentil.
Voilà. Donc, du coup, ça conforte encore dans mon idée que ça a l'air vraiment de bons gars, les Islandais.
Pauvre petite vache. En même temps, c'était pas facile d'être une vache en Islande, quoi. Je crois qu'à la base, il y avait un genre de mammifère là-bas.
Qu'est-ce que je fous là ?
La végétation est nulle pour les mammifères. Enfin, vraiment, il n'y a rien à... Pas pour les vaches.
Si la chasse aux sorcières, elle est beaucoup moins violente qu'en Europe, c'est aussi pour des raisons géographiques. Comme j'aime souvent le répéter, on ne peut pas généraliser les chasses aux sorcières. Il faut regarder les contextes qui sont très différents d'un lieu à l'autre. Et en Europe, je vous ai déjà dit plusieurs fois que les épicentres, c'était souvent dans des villages qui sont éloignés de lieux d'autorité judiciaire. Et ben, en Islande, on n'a pas vraiment d'épicentre parce qu'il n'y a pas grand monde, en fait. Et du coup, les gens sont souvent... Ils vivent au milieu de nulle part. Donc, ils n'ont pas trop de raisons d'accuser leurs voisins parce qu'ils n'en ont pas.
J'aime vraiment bien cette ambiance en Islande.
Par contre, un point commun avec l'Europe, c'est que toutes les personnes qui vont être accusées de sorcellerie, c'est des personnes qui sont très vulnérables. La quasi-totalité des accusés sont des personnes qui sont pauvres, qui sont des fermiers qui ne sont pas propriétaires de leur ferme. Donc voilà, on tape sur les plus faibles, l'histoire qui ne change pas d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre. C'est l'instant dépression.
Ouais. Monde de merde. Voilà, c'était l'instant révélation. C'est engagé.
Vous êtes tous très surpris par ce constat.
Vraiment, radio bamboche jusqu'au bout.
On a annoncé dès le premier épisode.
Et hop là, c'est la dépression.
Alors, par contre, autre fait intéressant sur l'Islande, c'est que les accusés sont quasiment que des hommes.
Ah.
Entre 1604 et 1720, on va compter 120 procès pour sorcellerie. Ces 120 procès, ils ont mené à 22 condamnations à mort. Et parmi ces condamnés à mort, il y a 20 hommes et seulement 2 femmes.
Ah ouais. Ouais, ils avaient peut-être besoin des femmes pour leur reproduction, il n'y en avait peut-être pas beaucoup. Ils se sont dit alors... c'est peut-être pragmatique comme choix.
Non, et en fait, c'est une raison quand même de sexisme qui fait que c'est beaucoup plus des hommes qui sont accusés. Parce
que. Pas ce qu'ils faisaient.
Non, parce que, en fait, je vous ai expliqué que dans la culture islandaise, il y a le fjolkingi, qui est la maîtrise de la magie. Okay. Sauf que pour maîtriser la magie, bah, il faut être quand même éduqué, il faut savoir lire, il faut savoir écrire. Et pour savoir lire et écrire, il faut être allé à l'école.
Ah, c'est ça.
Et sauf que, comme à cette époque, c'était les écoles, c'était, comme c'était un pays catholique, c'était des monastères, bah, seuls les garçons pouvaient aller à l'école. Donc, seuls les hommes étaient assez lettrés pour maîtriser la magie et donc pouvaient être accusés et condamnés à mort pour sorcellerie. Terminé, je me suis posé un peu la question de, tiens, s'il n'y a eu que 2 femmes accusées, condamnées à mort, c'était qui ? Il y en a une sur laquelle on n'a pas vraiment de traces, par contre l'autre, oui. Et je vais vous faire une traduction approximative en français d'une traduction anglaise d'un texte islandais que j'ai trouvé sur Internet.
Ouais, ça va être bien.
Et donc c'est... Turidur Olafsdottir, qui est une des 2 femmes condamnées à mort, qui... qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ça commence bien. Turidur Olafsdottir et son fils John ont été brûlés à Vestfold. Ils étaient accusés de magie, donc Galdur. La femme avait vécu à Skagafjordur toute sa vie, et elle n'avait jamais utilisé de Galdur. Comme tous les miséreux, elle avait quitté l'Ouest au printemps 1677 avec son fils John, dont on ne connaît peu de choses, mis à part qu'il n'avait jamais utilisé de Galdur non plus. Il aurait affirmé que sa mère avait traversé toutes les cascades du Nordland sans cheval ni bateau, uniquement à l'aide de Galdur, et donc qu'elle avait des connaissances en sorcellerie.
Oh, mais c'est trop mignon, il a dit à l'école, moi, ma mère, elle est tellement forte qu'elle fait ça et ça et ça.
Bah
et
oui, sauf... voilà. Les gens ont cru à ses mensonges et ils ont été arrêtés et brûlés.
Juste parce que sa maman, elle était trop forte.
Bah, surtout qu'il a été condamné avec sa mère.
Oh.
Voilà.
C'est vraiment triste.
Et je trouve qu'on a quand même beaucoup d'histoires de parents condamnés à cause de leurs enfants dans les chasses aux sorcières. Donc, si vous êtes parents, méfiez-vous de vos gosses parce qu'ils n'auront aucune pitié à vous sacrifier.
Les enfants, les êtres malades.
Bah, ils ne sont pas du tout au courant des répercussions que peuvent avoir leurs propos. Donc,
Ouais, ma mère, elle a une baguette magique, bien sûr.
Bah oui, c'est ça. Elle est trop forte. Elle
ah
peut
non,
marcher
mais je crois
au
que c'était comme ça qu'on appelait
la voiture.
Les pierres en bois. Ouais, bien sûr, et avec, elle fait de la soupe.
Donc voilà, ça c'était un petit aperçu des chasses aux sorcières en Islande. Et je vais terminer en faisant un appel aux dons, puisque j'aimerais bien me payer avec toi un petit voyage à Holmavik. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos pièces jaunes, qu'on puisse aller visiter le musée de la magie et de la sorcellerie.
Oui, merci. Et attends, j'ai un fun fact. Comment elle s'appelait déjà la dame?
Elle s'appelait Turidur Olafsdottir.
Eh ben, ça veut dire qu'elle était la fille d'un mec qui s'appelait Olaf. Parce qu'en Islande, ils choisissent leur propre nom de famille, ce qui est trop classe. Et donc, ils disent qu'ils sont Dottir de machin, si c'est la fille d'eux, ou Fatir de truc, si c'est le fils d'eux. Donc, je trouve ça très classe.
Ouais.
Moi, je m'appellerais Marion Sylvie Dottir.
Moi, c'est Marie-Hélène Dottir, c'est beaucoup trop long.
C'est carrément trop long.
Dédicace à nos mamans.
Plutôt pour faire des arbres généalogiques quand j'y pense. D'où peut-être le petit souci de consanguinité qui force les gens à avoir une application pour être sûr de ne pas sortir avec leurs cousins.
Oui, mais en même temps, ils sont 10 sur cette île, donc c'est dangereux.
Disons qu'ils entretiennent des liens soudés. C'est une forte communauté.
Allez, on fait un peu de mathématiques.
Ah ah, non.
D'algèbre.
Le moins possible. franchement, j'ai repoussé le moment de faire cette chronique, mais
faut bien faire. T'es pas obligé, hein.
Si, parce que là, tout de suite, j'avais pas d'autres idées, donc je me suis dit, Marion, fais la numérologie, ce sera fait. Donc il faut faire. Si, parce qu'en plus, c'est quand même une pratique assez populaire, donc je voulais la faire. Et en plus, ça m'intrigue un peu la hype autour de la numérologie. Comme je comprends pas, je veux comprendre. Donc, en gros, la numérologie, c'est la magie des nombres ou le symbolisme derrière les nombres. Et c'est un peu une forme de langage qui ressemble à de l'astrologie, mais qui a rien à voir avec les étoiles. Genre, en gros, en astrologie, tu as un signe, un ascendant, un signe lunaire et plein d'autres trucs qui vont dans ce qu'on appelle un thème astral, c'est ton profil astrologique, et bah t'as la même chose, mais en numérologie. T'as un profil numérologique avec dedans ton chiffre qui est le chemin de vie, ton chiffre qui est le nombre d'expressions, le nombre intime, le nombre machin, et ça veut tous dire des trucs différents. Je vais souvent faire des parallèles avec l'astrologie, parce que, un, c'est plus pratique pour moi, et deux, je pense que c'est quand même un peu plus connu que la numérologie, et ça va peut-être parler un peu plus, en tout cas, aux gens qui nous écoutent, je pense. Parce que si vous écoutez C'est pas sorcière, a priori, vous savez c'est quoi votre signe lunaire. Si c'est pas le cas.
Je sais pas c'est quoi mon signe lunaire.
J'arrête pas de te le dire, c'est Gémeaux.
En même temps, je n'écoute pas C'est pas sorcière, donc.
Mon signe lunaire, c'est Gémeaux, comme ma nièce.
Alors. Ok, faut que j'essaye de retenir.
Oui. Pour cette chronique, je me suis donc basée sur le livre de Caroline Drogo, qui est numérologue, tarologue et astrologue, et qui s'appelle « Numérologie, dis-moi qui je suis ». C'est aux éditions Solar, et je me suis basée là-dessus parce que comme j'y connais rien du tout, comme le livre est
autant
très complet...
écouter les gens qui s'y connaissent.
Voilà. Et en plus, je conseille cette... c'est dans la collection de Solar qui s'appelle « Ésopop », et ils ont plein d'autres livres. Qui sont trop chouettes et en plus ils sont très beaux, ce qui n'est pas négligeable pour les gens qui ont besoin que les choses soient jolies pour s'y intéresser, comme moi.
Ouais, surtout les livres.
Ouais. Alors.
Message aux éditeurs qui font encore des couvertures blanches avec une photo de banque d'images.
Arrêtez de vouloir faire des trucs classe et chic. C'est nul. Voilà. Cette petite intro étant faite, la numérologie, ce serait plus ancien que l'astrologie ou même le tarot, même si les sources sont pas faciles à trouver. Et apparemment, les traces les plus anciennes, elles viendraient d'Égypte et de ce qui était l'Irak actuel. Fun fact, Pythagore croyait en la numérologie. Eh ouais.
Ah, bon, ça m'étonne pas en même temps, c'est sa passion.
Oui, vraiment passionnant pour Pythagore. Et comme en astrologie ou dans d'autres domaines, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs types de numérologie. Bon, celle-ci, c'est la numérologie, je crois, occidentale, basique, si je ne m'abuse. Peut-être que je dis une connerie, mais je crois que c'est ça.
Ok.
Pour réaliser des calculs qui nous donneraient des informations sur nous, notre personnalité, notre destin, on a besoin de les dates de naissance, les heures de naissance parfois aussi, mais aussi les noms et les prénoms. Et grâce à tout ça, c'est possible de te faire un portrait un peu complet et de faire un peu comme un thème astral. L'idée, c'est soit de faire des prédictions, on appelle ça des numéroscopes, c'est comme des horoscopes, soit de faire du coup de l'introspection ou les deux.
Ok.
Alors, comment on fait ? En gros, en numérologie, on estime que chaque chiffre a une symbolique, slash vibration, slash énergie. Et en gros, si ça vous parle mieux, plutôt des thèmes et des traits de caractère qui sont associés. Par exemple, le 1, il serait un peu le leader des chiffres. Il représenterait le dynamisme, le courage et la prise d'initiative parce qu'il est number one. Le 2, c'est comme on associe deux trucs, c'est le chiffre de l'union, de la somme. Donc ça représente la diplomatie, l'équilibre, la sensibilité.
Ok.
Le 3, ça représenterait la dispersion, la créativité, la sociabilité. Et en fait, c'est marrant parce que on peut faire des parallèles avec tous les autres domaines ésotériques avec ces chiffres. Parce que par exemple, là, le 1, il correspond très bien au bélier qui est le premier signe. Le 3, il correspond très bien au gémeaux qui est le troisième signe, etc. etc.
Moi, j'allais dire le 1, ça correspond au Gryffondor.
Oui, de toute façon, le bélier, très Gryffondor. Hein, c'est la même idée. L'idée, c'est de dire, au lieu de dire tu es courageux et tu parles très fort, de dire tu es Gryffondor ou tu es 1.
Tu es 1. Je vais commencer à dire ça aux gens. C'est tous les gens qui parlent trop fort. Tu es un peu trop 1, là. Calme-toi.
Calme ton 1. Ressens ton 8 intérieur.
Ah, ok. Et j'ai hâte de savoir c'est quoi le 8.
Mon chemin de vie, je vais pas faire tous les chiffres là par contre, hein, parce que c'est j'ai été jusqu'au 4 parce que c'est mon chemin de vie à moi. Voilà. Le 4, ça représente, tout comme les 4 pattes d'un mammifère ou les 4 pieds d'une table, la stabilité, la fiabilité, et on y associe aussi les responsabilités et les économies. Voilà.
Ok. Donc un peu pouf souffle.
Je pense. Un peu boring, mais bon, je pense que je suis un peu boring, donc oui, je me retrouve. Alors, du coup, en gros, l'idée, c'est que de 0 à 9, chaque chiffre a une signification. Oui, même le 0. Et pour les nombres à partir de 10, généralement, en numérologie, on les additionne jusqu'à ce qu'ils donnent un chiffre seul. Par exemple, une date de naissance qui sera 17, elle sera comptée comme un 8, parce que 1 plus 7, 8.
Ok.
Et si jamais ça fait plus, je sais pas, genre 2 plus 9, du coup ça fait 11, tu fais 1 plus 1 et ça fait 2. Et à chaque fois, l'idée, c'est de réduire.
Ok, c'était quoi le 3 déjà, du coup ?
3, c'est la dispersion, la créativité, la sociabilité. Il y avait aussi d'autres choses, mais j'ai un peu raccourci.
Bon, créativité, oui. Dispersion, je sais pas.
Attends, pourquoi le 3 ? T'es 3, toi ?
Pour moi. 1 plus 2.
Ah oui, alors non. Je t'explique, ça se calcule pas comme ça, c'est plus compliqué.
Ah, zut.
En gros, pour calculer son chemin de vie, je vais prendre l'exemple du livre de Caroline Drogo, où elle prend l'exemple d'une personne qui est née un 13 janvier 1989.
Okay.
Première étape, on additionne le jour, donc le 13, 1 plus 3 égale 4.
Ok, attends, je vais faire avec moi en même temps en notant. Donc, on additionne les jours.
Okay. Mais en quelle année, toi, déjà ?
96.
Ouais, j'avais trouvé le bon truc. Bon, je sais déjà d'avance ce que c'est alors.
Ok. Bon, on va voir si je fais le même résultat. Comme à l'école, alors, quand tu fais un exercice de maths et à la fin tu dois lever ton ardoise et que t'as pas du tout le même chiffre que tout le monde.
Oui, l'histoire de ma vie. Donc.
Donc j'ai additionné les deux du jour. Ok.
Ouais. Ensuite, tu additionnes chaque chiffre de l'année.
Ça fait beaucoup.
Ouais. Et tu le laisses comme ça, celui-là, pour l'instant, on n'a pas besoin de le réduire.
Ok.
Et ensuite, tu additionnes le mois plus ce que tu as obtenu avec le jour plus ce que tu as obtenu avec l'année.
Ça fait. Ok.
Et ensuite, le nombre que tu obtiens, fais le premier plus le deuxième.
Ok.
Tu obtiens quoi ?
10.
Attends, c'est pas le même truc que j'ai eu. Moi, j'avais 11.
Parce que 1 plus 2 égale 3.
Ouais.
Jusque-là, ça va. 1996, c'est 1 plus 9 plus 9 plus 6, ça fait 15.
Ah bon ? Ah oui ! Attends. Bah non. 9 plus 9, ça fait 18.
18. Et 1,
ça fait
19.
25.
Plus 6, 19 plus 6, ça fait... Ah oui, ça fait 25, pas 15.
Ah
j'ai oublié un chiffre.
Toutes mes heures de Scrabble de que compter les... et de compter les scores du Scrabble, bon, ça vient quelque chose, je suis tellement excitée.
J'ai oublié la retenue. J'ai oublié de retenir 1. Donc c'est 1 plus 3 plus 25.
Oh, ma mère serait donc... tellement fière de moi.
Donc ça fait 29, donc ça fait bien 11.
Voilà. Et après, du coup, tu additionnes le 1 plus le 1, ça fait 2.
Ça fait 2. Donc j'ai l'union.
Alors attends. C'est où le 2 ? Chemin.
Envoyez-nous vos numéros. C'est rigolo.
Numéro 2. Alors, guider ton entourage de façon pacifique, désintéressée, sans s'oublier. Les mots-clés, c'est équilibre, sensibilité, diplomatie. Tu as le même chiffre que Barack Obama, Amelia Earhart et Jennifer Aniston.
Et c'est marrant parce que le test de Myers-Briggs, là où tu es les lettres, INFT, machin,
ouais.
Et ben j'ai la personnalité avocat, ou pareil, c'est Barack Obama.
Ah oui, moi aussi j'ai ça. Mais je suis pas sûre.
C'est marrant.
Aussi. Ah si, je crois que c'est un peu le même truc. Je crois que c'est très très pouf souffle, hein, comme idée. okay, c'est écrit okay. Que tu es un être sensible, empathique, blablabla.
Ouais, je sais pas si c'est trop vrai, mais ok.
Tu es la diplomatie, tu es des collaborations et non la chef et ou une figure d'autorité. Toi, tu aiguilles
en
retrait.
Ah oui, ça par contre, oui.
Tu es dans la confidence, la subtilité. Au travail, ils disent que tu n'es pas du genre télétravail ou indépendante qui bosse dans sa tanière et il te faut du contact avec les autres êtres vivants. Lol.
Bon, après, dire, je ne peux pas faire de télétravail, mais je ne sors jamais de mon bureau. Donc...
et les conseils, c'est je ne peux que t'encourager à dompter ta peur de la solitude. Mais t'as pas peur de la solitude, toi?
Bah non, ça va. Si.
Tu peux commencer. Non, ça va. qu'est-ce qu'ils disent? Non, bah, ils te disent de t'installer avec un bon livre dans un café ou aller au cinéma en solo, mais c'est trop bien ce qu'ils te disent.
Mais je le fais déjà.
Bon, moi, c'est quoi mon
par
conseil?
Par contre, je lis pas dans les cafés, il y a trop de bruit, j'arrive pas à me concentrer.
Ouais, je suis d'accord. Bah sinon, faut mettre des trucs pour les oreilles. Oh là là, moi j'ai beaucoup de conseils. Assume ton ambition. J'ai pas beaucoup d'ambition quand même. Hein. Note bien que le sentiment de réussite et de confort viendra pour toi après 30 ans. Génial, merci. En fait. J'ai déjà 30 ans, je me sens absolument pas confortable. Au cours de la première partie de ta vie...
Oui, ils ont pas dit quand après 30 ans, ils se mouillent pas trop.
Ah
peut-être
mon Dieu.
Ça sera 60 ans, techniquement.
C'est donc après que l'existence deviendra plus fluide, repose-toi les week-ends pour de vrai. Oui, bah le ménage, ça se fait tout seul aussi.
C'est vraiment ça leur conseil, repose-toi le week-end.
Fais une activité manuelle ou artistique pour te détendre. Ne néglige pas ta santé mentale et physique. Fais du sport, non. Ou de la méditation, non. Moi, mon sport, c'est d'habiter en banlieue déjà, c'est pas mal. Dernier conseil, ouais. Exprime tes difficultés ou ce que tu ressens. Gna gna gna. Bon, allez, hop, on passe à autre chose.
J'aime pas la numérologie.
moi, j'ai le même truc que Malala Yousafzai, Greta Thunberg.
Oh.
Ah non, non ça, c'est le, oh. Ça, c'est le 9, pardon. J'avais fait l'exemple du 9. Oh, bon, bah, j'ai qui déjà de bien. De bien. C'est genre, il y a des gens, elle va mettre des exemples nuls, genre Hitler. Hitler était taureau comme moi, c'est pour ça que je dis ça. Alors, personne illustre, Bill Gates, Marie Curie, Léonard de Vinci, Oprah Winfrey et Sigmund Freud. Ok, c'est large. Le spectre est large.
Je crois qu'elle a juste pris des gens au pif, là.
Non, je pense que ces gens, ils ont vraiment un chemin de vie 4, mais... Ok, d'accord, je m'identifie carrément à Marie Curie. Je pense que je suis aussi importante dans l'histoire qu'elle. Donc...
c'était une grande découverte.
Voilà, c'était le chemin de vie. Et ça veut dire, bah, du coup, c'est un peu, ça te donne un peu la voie que tu pourrais suivre et les leçons que tu pourrais apprendre. Mais il y a aussi plein d'autres chiffres qui correspondent à d'autres parties de la vie. Et en plus de ça, en numérologie, même si c'est la passion des nombres, il y a aussi des significations pour chaque lettre de l'alphabet. Et aussi des chiffres qui correspondent à chaque lettre de l'alphabet. Donc en fait, tu peux carrément genre, prendre toutes les lettres de ton nom et de tes prénoms, si t'en as plusieurs, et regarder c'est quoi la signification de chaque lettre, ou s'il y a des lettres qui reviennent plus, tout le temps, si t'as plusieurs fois le L ou le M, ah, je oui. sais pas. Attends, tiens, je vais regarder c'est quoi nos initiales. Alors, L, esprit analytique, raffinement, communication, sociabilité, exigence.
Incroyable, je travaille dans la communication.
C'est pas mal, hein? Moi, c'est M, autodiscipline, sérieux, organisation, persévérance, possessivité.
Autodiscipline, avant d'enregistrer, Marion me disait qu'elle n'avait pas mangé depuis hier.
Oui, mais ça n'a rien à voir, j'ai oublié, d'accord. J'étais en train de faire d'autres trucs et ensuite j'ai eu un peu mal à la tête, je me suis dit « Ah oui, c'est ça, la fin !» C'est pas pareil. Et nous, on a, qu'est-ce qu'on a en commun dans nos noms? On a un O, émotivité, spiritualité, sens des responsabilités, conservatisme. Oh ouais.
Quoi?
Et on a un I aussi, émotivité, gentillesse, générosité, obstination.
C'est le point du I.
C'est ça.
L'obstination.
Le point sur les I. Et le T, la barre sur les T, c'est originalité, sensibilité, intuition, sacrifice, angoisse.
Angoisse,
c'est hilarant.
Je suis désolée à tous les gens qui ont des T dans leurs prénoms.
En plus, dans mes prénoms, j'ai plusieurs prénoms et j'ai plusieurs M, plusieurs fois les mêmes lettres à chaque fois. Je crois que j'ai plusieurs T aussi, en tout. En tout, dans mes prénoms et mon nom, j'ai 3 T, donc 3 fois d'angoisse. Eh ben, oui, mais 3 fois d'originalité et de sensibilité, donc quand même. Bref. Tout est possible, et il y a même des gens qui font des sortes de compatibilité entre deux personnes avec les, bah, bien sûr, les dates de naissance, mais aussi les lettres de l'alphabet.
Est-ce que tu peux changer ton prénom pour essayer d'éviter, genre si t'as un T dans ton prénom et que ça...
Genre, tu t'appelles Tom. Je pense pas que ça marche comme ça.
Et t'es trop anxieux et tu te dis, bon bah je vais m'appeler Sam, et comme ça... Ça ira mieux.
Je pense qu'en numérologie, à la base, il y a une idée de... Enfin, il y a plein de numérologues qui croient aussi au karma et aux réincarnations et tout, donc à une espèce de fatalité de destin. Mais moi, je pense que, a priori, si tu décides de changer de nom, bah, nouveau prénom pour une nouvelle vie, en fait, tu fais ce que tu veux, YOLO. Ouais.
Oui, tu reprends le contrôle sur...
Ouais, j'aime bien. Et mon chat, lui, la lettre B... Les émotions, la créativité, l'imagination, la timidité, l'indécision. C'est vraiment un petit cœur, mon fils.
Dormir ou manger. Ah.
Non, il a choisi, il dort. Alors, du coup, au-delà de tous ces calculs-là, qui vont donner des petits bouts de puzzle sur ta personnalité en numérologie, donc d'avoir le nombre actif qui veut dire tel truc, le nombre d'hérédités qui veut dire tel truc... Ça, c'est des trucs qui bougent pas, que t'as tout le temps. Mais tu peux aussi avoir des nombres qui changent chaque année. Par exemple, l'année personnelle. Contrairement à l'année universelle. En gros, là, on est en 2024. Donc si on additionne le 2 et le 4, ça fait 8. Donc on est en année 8, et ça veut dire tel truc. Ça s'appelle l'année universelle. Mais, toi, t'es pas forcément dans une année 8. Faut que tu calcules des trucs... je crois que c'est... des trucs en fonction de le jour et le mois de naissance... plus le 8. Bref.
Ah,
en gros, moi, je suis compatible. Dans une année 9, je crois. Ouais, pas forcément
alors
compatible,
qu'on est dans
mais
une
ça
année
te donne
8.
Un peu comme un complément d'information, quoi.
Ah oui, ok, d'accord. C'est toi comment ton
c'est
année
en plus.
Elle, c'est pas...
Okay. Ouais. C'est un peu comme... Bah, du coup, là, ça te donne une sorte d'horoscope de l'année, enfin, de numéroscope de l'année. Mais tu peux aussi faire la même chose avec le mois. Ça s'appelle le nombre du mois personnel, où tu te donnes un numéroscope du mois, et même avec le jour. Et en plus de tout ça, tu peux avoir juste le nombre de... le chiffre de ta naissance. Et plus, si tu fais un mix avec l'astrologie, tu peux dire, par exemple, moi, je suis née un jeudi 14. Donc le jeudi, ça veut dire, c'est le jour de Jupiter, le jeudi, jour de l'expansion, de la chance, de la croissance, de l'évolution, tout ça. Et 1 plus 4, ça fait 5, donc curiosité, adaptabilité, excentricité. Et tu peux mettre des significations comme ça partout, parce que des chiffres, il y en a partout. Donc tu peux faire le thème numérologique, même de ton adresse, tu vois, genre j'habite à tel numéro, mon code postal c'est ça, et tu peux faire des trucs là-dessus, ouais, ta taille, ton poids, je sais pas si ça marche à tailler le poids, mais why not, hein, tout est possible. Parce que bon, après la taille et le poids, si tu veux, il n'y a personne qui fait 2 cm, donc. Ou alors, c'est qu'il est vraiment pas encore né.
Ok, c'est pas.
Donc, ça va être plus ou moins les mêmes ratios, quoi.
Ouais.
Voilà, les possibilités sont donc infinies.
Ah, c'est beau.
Ah, c'était... j'ai pas fait exprès, mais ouais.
C'est vrai, t'avais pas fait exprès.
Non.
C'est trop beau.
Non, mais moi, j'y connais rien en maths. Moi, j'ai dit que j'étais totalement...
Ah, l'infini, ça se réfère aux chiffres, ok.
Et en plus, j'ai une espèce de... Comment dire? Parce que d'un côté, les sciences m'ont toujours intéressée, mais d'un côté, j'ai pas vraiment de logique mathématique. Donc en fait, je me suis toujours sentie un peu exclue de ce monde magique où les gens s'éclatent à faire des calculs, mais comme on ferait des jeux ou des puzzles. Et du coup, j'ai un peu de ressentiment. Je suis un peu jalouse.
Moi, j'avais un peu ça quand
ça a l'air bien, genre quand des équations. Quand on comprend.
Quand on sait des équations, ouais. c'est genre une énigme. Tu dois retrouver le X, qu'est-ce que c'est.
Mais moi, justement, le problème, c'est que j'avais trop du mal. Bah, c'est pour ça que j'ai pas eu le truc où tu fais un examen pour savoir si tu peux utiliser Excel. Là. J'ai tellement zéro logique qu'en fait, j'avais tout bien suivi. Je m'étais intéressée et tout. Et j'avais appris toutes les
formules.
Mais je savais pas quand est-ce qu'il fallait les utiliser. Je ne comprenais pas. Où était le lien?
Ouais, mais Excel, c'est vraiment encore un sous-truc. C'est vraiment un truc de...
Merci, c'est tout ce que tout le monde me dit pour me rassurer. Ouais. Et je prends.
Mon chef est très très fort en tableur et on le regarde toujours comme si c'était un alien.
Je pense que c'est comme ça que doivent me regarder mes parents quand je joue aux Sims et que genre je fais des codes chelous avec mon clavier.
D'ailleurs,
dans une autre dimension.
Il fait un peu beaucoup trop de tableurs et du coup, en entretien individuel, en point négatif, j'avais marqué que moi, j'aimais pas les tableurs.
Point négatif, Excel, nul.
C'est ça. Il m'a dit, oh bah c'est pas grave.
J'avoue que j'adore les tableaux, mais même dans le milieu professionnel, dès qu'il faut faire quelque chose sur un équivalent d'Excel, ça me tend dans les trapèzes, je sens que ça me met des tensions, quoi. Et des mauvais souvenirs.
Bon, c'était la chronique des chiffres et des lettres.
Oui, exactement. Donc, ça fera un super titre d'épisode.
Ouais, c'est ce que je me suis dit en le disant.
comment c'est déjà le nom de la magie? Gudal?
Galdur.
Galdur. Galdur et des lettres.
Galdur et des lettres. Parfait.
Galdur au carré.
Ou des chiffres et des Galdur.
Quel dur égal d'eau.
Oh, égal. Dans un bateau.
Incroyable.
Oh, on va trop loin. Ça va faire un titre d'épisode très long là si on doit mettre tout ce qu'on vient de dire.
Le titre de l'épisode est Roue libre.
Non, mais ça, c'est le titre du podcast.
Ouais. Oh, quand même. Je pense que contrairement à bien d'autres podcasts, on a quand même un fil bien établi. Moi, j'aime pas justement les podcasts où on me promet ça et j'écoute et il faut une demi-heure avant qu'on commence à me parler du truc dont on devait me parler.
Ouais.
Ça m'agace.
Passons aux anecdotes.
Ouais.
C'est le moment des anecdotes. Ba-da-ba-ba-doua. Qu'est-ce que tu as comme anecdote?
Eh ben moi, j'ai pas d'anecdote, mais j'ai une
recommandation.
Oui. Non mais c'est vrai, c'est trop dur qu'il y ait des anecdotes qui nous arrivent sur le thème de la sorcellerie. Moi ça m'arrive jamais. Ou alors je fais plus attention parce que bah comme je travaille un peu dans les trucs ésotériques et tout, bah je fais plus gaffe. C'est possible hein.
Ah ouais.
C'est vraiment possible.
Ah c'est un peu triste si tu les remarques plus.
L'autre fois au bureau, j'ai reçu des trucs de fumigation au genévrier, bah j'ai oublié de les faire cramer.
Ah voilà. Bah, c'est quand même une anecdote. Voilà, tu as reçu des
J'ai fait cramer un bâton de fumigation pendant presque un an pour avoir de l'argent et de la chance. Bah, relativement, je suis pas à la rue, donc j'ai de la chance. Je suis pas non plus ruinée. Donc, bon. C'est relatif. Hein. Je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein. Bref, mon anecdote, ma recommandation, c'est une BD. C'est une BD pour, je crois que c'est ado, jeune adulte. Ça s'appelle L'apprenti épouvanteur. Et je me suis tiré une balle dans le pied dès le début, parce que j'avais dit que je ne commencerais pas de nouvelles suites, et j'avais pas fait gaffe que c'était un tome 1.
Ah, c'est ça me dit quelque chose. BD...
de Pierre Hortel, Benjamin Bachelier et Marie-Hélène Delval. Me demandez pas ce que chaque personne fait dans la BD, je ne sais pas quels sont les rôles, mais telle est la distribution. Et ça vient, c'est une adaptation d'une saga.
Oui, ce que j'allais dire, c'était romans. Des romans.
Oui, de Joseph Delaney.
Je vois leur couverture, mais je les ai jamais lus.
Et bah moi non plus, mais ça a l'air cool. En fait, la BD m'a attirée parce que bah, visuellement, elle est belle. Il y avait écrit l'apprenti épouvanteur dessus, il y a une vieille tête de sorcière. Et bah, j'ai lu derrière, je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Thomas Ward, le septième fils d'un septième fils, devient l'apprenti épouvanteur du comté. Point. J'avais déjà décidé d'acheter le livre. Il doit apprendre à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins, à empêcher les sorcières de nuire. Mais lorsqu'il libère involontairement Mère Malkin, la sorcière la plus maléfique qui soit, l'horreur commence. Voilà, j'ai acheté, évidemment. Et du coup, oui, ça parle de ce garçon qui, bah, du coup, dû au fait qu'il est le septième fils d'un septième fils, doit devenir l'apprenti en fait, d'un épouvanteur pour pouvoir le remplacer bah, quand il sera mort, a priori. Et faire tout un boulot qui consiste à, dans le comté, je crois que ça se passe en Grande-Bretagne, ouais, de faire une espèce de nettoyage des créatures malveillantes et autres... bestioles. Et j'ai bien aimé parce que, déjà, je trouvais que l'histoire, elle était bien déroulée dans la BD. J'étais pas sur ma faim et ça avançait. Voilà, je trouvais que c'était vraiment bien fait. Deux, c'est très joli.
Enfin, en tout cas, j'étais en train de regarder sur, esthétique que j'aime sur beaucoup. Internet. C'est le côté crayon de couleur, là, trop beau.
Oui. Et surtout, il y a plein de paysages de campagne et c'est vraiment très très beau. Il y a des petites... je trouve que ça ressemble à pas Van Gogh des fois. Alors, j'ai une petite obsession avec Van Gogh, donc je le vois partout, mais je le trouve. Et du coup, troisième raison pour laquelle j'ai bien aimé, c'est que du coup, il y a des sorcières dedans. Alors, je sais pas si dans les autres tomes il y aura autant de présence de sorcières ou pas, mais il y a vraiment tout un nuancier de sorcières. C'est-à-dire que c'est pas que la méchante sorcière, soit que la très gentille sorcière. T'as une sorcière qui effectivement est malveillante, t'en as une qui pas un mauvais fond mais qui décide de suivre et d'être malveillante du coup quand même, et t'en as une qui veut un peu quand même se sortir d'un schéma parce que ça lui plaît pas trop quand même les actes criminels, et je trouvais ça chouette. Et aussi une autre chose que je trouvais sympa, c'est que le garçon, en gros son maître, il lui apprend que bah voilà, si tu trouves une sorcière, tu la mets dans un puits, tu l'enfermes et voilà. Et lui se dit quand même, mettre une sorcière dans un puits toute la vie, c'est quand même pas très sympa, j'aime pas trop. Bon. Et du coup, je trouvais que c'est sympa à lire pour les ados parce que ça parle de bah du coup de se faire son propre avis, de désobéir parfois, de remettre en question les choses, et je trouve que c'est pas mal comme message.
Ouais.
Et la BD en soi, c'est un tome 1, je sais pas si ils feront tous les tomes en BD, parce que des fois, comme le tome A marche pas, ils arrêtent un peu.
Mais ça suffit en lui-même.
Ouais, il peut se suffire en lui-même, il peut se lire juste comme ça. Bon, en fait, j'avais pas capté c'était un tome. Je croyais que le petit 1 en haut, c'était genre un truc avec la maison d'édition. Je me fais gaffe, je dis ah, non, très sympa. Donc je finis et là je vois.
C'était la numérologie.
Tu as aimé la BD ? Découvre aussi toute la série L'Épouvanteur en roman. Ah mon dieu, mais ça fait beaucoup. Et oui. Et oui. Mais oui, ça peut tout à fait suffire en lui-même. Et du coup, la fin, c'est aussi... C'est une fin, c'est fini. Mais il y a aussi un peu une ouverture sympa.
Ouais, pour préparer s'ils peuvent en faire une deuxième.
Ouais. Et le petit moment qui fait un peu peur et tout. J'aime bien.
Pour ma part, j'ai deux anecdotes. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fêté mon anniversaire. On a fait une raclette avec les copains. Et j'ai reçu en cadeau un petit kit de runes pour pouvoir lire les runes des gens. Et donc, évidemment, on a débarrassé la table, on a testé. Et comme on parlait de ça, on a aussi sorti mon tarot et on a fait aussi du tarot. Et c'était rigolo.
Waouh, mais Louise, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu deviens très déraisonnable et...
Mais alors, c'était très rigolo, hein, parce qu'on posait que des questions très drôles. Et donc, les runes, on leur demandait des choses sur notre futur.
J'ai vraiment une mauvaise influence sur toi.
Donc, par exemple, ma meilleure amie qui venait de passer un concours a demandé est-ce qu'elle allait l'avoir. Et la rune était carrément positive. Et il se trouve qu'elle l'a eue. Donc, du coup, nous nous sommes dit, bon, bah, tout ce que les runes ont dit, ça veut dire que c'est vrai. Et alors, moi, je lui ai demandé si j'allais être riche.
Et la rune t'a dit
ça m'a répondu que j'étais créative.
Ça veut dire bon, tu vas trouver des choses, tu vas trouver des moyens. Essaye.
Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que j'ai reposé la même question au jeu de tarot Ça m'a dit que j'étais créative.
Bah,
donc, conclusion, voilà.
Pioche plusieurs fois les mêmes cartes. C'est soit que tu n'as pas posé la même question, soit que tu connais déjà la réponse.
Ou alors, ça veut peut-être dire qu'il faut que je vende mon art et que je deviendrai riche grâce à ça. Je ne désespère pas qu'un jour, je serai riche.
Ouais, je trouve aussi. Ça peut vouloir dire ça. Hein. Créative, ouais. Créative, tu peux créer une entreprise et devenir très, 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 très riche. Par exemple, une entreprise, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait donner aux gens des crêpes selon leur signe astrologique. Tada. Et ça fait une entreprise.
Et tout le monde a juste une crêpe au sucre, peu importe son signe astrologique.
Mais il la rend.
Et donc ça, c'était la première anecdote. La deuxième, dédicace à Arthur qui me l'a envoyée, qui a insisté pour que je l'utilise parce que je lui ai dit que j'avais pas d'idée. C'est que la tyromancie reprend de la popularité. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est la tyromancie ?
Bien sûr, j'ai fait un article sur le sujet. C'est dire l'avenir dans le fromage.
Exactement. Alors du coup, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup, qui est né dans la Grèce et la Rome antique, qui se faisait beaucoup au Moyen-Âge parce que les gens faisaient du fromage. Voilà.
Et plein de choses de la vie, quoi.
Et il se trouve que depuis pas longtemps, il y a des gens qui se remettent à proposer des services de tyromancie.
Génial, parce que du coup, il y a un côté un peu ésotérique, machin, magie. Et après, tu manges.
Ouais. Et en plus, du coup, maintenant, ils font aussi avec des fromages végétaliens. Donc, si vous êtes vegan, vous pouvez quand même faire de la tyromancie. Voilà.
C'est incroyable.
Et du coup, tu pourras nous faire une chronique sur la tyromancie, tiens.
Ouais, on pourrait carrément faire une chronique avec un tuto.
Et tu dis à l'avance quel fromage je dois acheter, comme ça je fais une dégustation en même temps.
Alors je crois qu'ils préconisent du coup les fromages de brebis et de chèvre plutôt frais, parce que du coup dessus t'as un peu les formes naturelles.
Les croûtes. Okay. Ouais. On peut pas faire avec du comté, c'est mon fromage préféré.
Bah non, il y a rien quoi. Il y a rien à analyser parce que la croûte, elle a pas de grosses veinures. Ou peut-être si tu ouvres un morbier en deux ou avec du Brillat Savarin. Faut voir. S'il y a des veines, ça peut peut-être s'interpréter.
Moi, j'achèterai quand même du comté pour le plaisir.
T'as raison.
Voilà. Encore.
Tu peux mettre un filet de miel sur, par exemple, un fromage de chèvre frais et tu observes un peu les couleurs du miel. Oui. Tout est possible. Ah.
Eh ben, j'ai faim.
Moi aussi. Ça tombe bien, c'est l'heure de manger.
Eh ben, parfait. Envoyez-nous vos photos de fromage végétalien ou de fromage pas végétalien sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, mais on ne va que sur Instagram, donc faites-le plutôt sur Instagram.
Ouais.
Et puis suivez-nous sur vos plateformes de podcast favorites.
Et merci à Moon and Sun pour la musique et à Craig, notre ingé son.
N'oubliez pas de rester magique.